Dans le cadre des conférences sur les collections de la BULAC, la série D'autres regards sur le monde, c'est pour moi un grand honneur d'avoir été choisi pour introduire cette soirée. Il s'agit d'une soirée en hommage au professeur Gilbert Lazat, qui a donné une grande partie de sa bibliothèque à la BULAC, et c'est pour nous l'occasion de le fêter, d'autant que nous venons de terminer, enfin mes collègues, puisque maintenant je suis en retraite, mes collègues viennent de terminer le catalogage de l'important fonds qu'il nous a laissé. Alors, pour moi, c'est un grand honneur de présenter cette petite soirée, parce que je suis moi-même un ancien élève du professeur Lazat. J'ai suivi ses cours à partir de 1966 et j'ai suivi tous ses conseils, j'ai essayé de suivre ses conseils et grâce à lui j'ai fait une carrière de bibliothécaire parce qu'il m'a donné le goût des livres, des manuscrits, de la linguistique, du persan, de la lecture et de bien d'autres choses. Je rappelle en quelques mots la carrière du professeur Lazat. C'est un secret pour personne que il va très bientôt fêter son anniversaire, je crois que c'est imminent, demain, et c'est d'autant plus une occasion heureuse de lui souhaiter un bon anniversaire en rappelant qu'en 1940, il est entré à l'École normale supérieure, qu'il est agrégé de grammaire, qu'il a été diplômé de persan des langues orientales en 1948, pensionnaire de l'Institut franco-iranien de Téhéran, puis chargé de cours, et ensuite en 1966, professeur de langue et civilisation iranienne à la Sorbonne. Il a été de 58 à 66 professeur de persan à l'École des langues orientales vivantes. Nous sommes nombreux à avoir suivi ses cours ici et à lui devoir beaucoup. Il a passé son doctorat S-Lettres en 1960. On lui doit des ouvrages qui font référence, qui sont restés très importants. Une grammaire du persan contemporain qu'il a fait paraître très tôt et dont il a fait reparaître récemment une version corrigée. Un très gros ouvrage sur la langue des plus anciens prosateurs persans. Un autre sur les premiers poètes persans. Il a ensuite fait un certain nombre de traductions littéraires très, très intéressantes. Et puis, l'autre aspect de sa carrière, c'est une carrière de linguiste intéressé par des problèmes de linguistique générale. Mais je ne vais pas tout détailler, rappeler simplement qu'il a été de 1972 à 1990 directeur d'études de linguistique et philosophie iranienne à l'EPHE, à la 4e section, et il a rejoint l'Académie il y a, je crois, une vingtaine d'années, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qu'il est à la fois l'animateur et le père des études iraniennes et un éminent linguiste très actif au sein de la Société de linguistique. Alors, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Tout d'abord, pendant une demi-heure environ, notre ami et collègue Pierre Lecoq, qui a enseigné à l'École pratique des hautes études, à l'École du Louvre, va poser un certain nombre de questions au professeur Lazat, de manière à approfondir certains des aspects de sa carrière et de ses recherches. Et puis, au terme de cet entretien, peut-être l'un ou l'autre voudront poser une question ou livrer un témoignage, mais on laissera la parole à Farzan Ezzarehi, qui présentera le don de la bibliothèque du professeur Lazat à la BULAC. Et puis ensuite viendront prendre notre place Justine Landau, qui est chercheur à l'Académie de Vienne, et Merad Memarand Koshani. L'une lira des traductions du persan du professeur Lazat, et l'autre lira le texte persan de des poèmes qui ont été traduits par Monsieur Lazare. Et à la fin, nous vous convions à un petit buffet. Voilà. Merci, j'ai parlé trop longtemps et je laisse la parole à Pierre Lecoq.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer ce soir et de participer à cette petite soirée. Et je vous suis d'autant plus reconnaissant que vous me donnez l'occasion d'entamer à mon âge une nouvelle carrière, celle d'intervieweur. Le mot n'est pas peut-être très joli, pas facile à prononcer non plus. Il faudrait peut-être demander un jour à l'Académie de se pencher sur la question, n'est-ce pas ?
Fabriquer un mot.
Avec, il y a entretien, entreteneur, ça ne va pas très bien non plus. Mais à notre âge, à nos âges aussi, il est tout à fait recommandé de s'entretenir. Et c'est ce que je fais naturellement ce soir. Je ne vais pas rappeler toute votre carrière, monsieur, notre collègue vient de le faire. Il y a votre enseignement d'un côté, à la fois à l'école des langues orientales, à la Sorbonne, et puis à l'école pratique des hautes études, ni non plus vos publications que tout le monde connaît, avec deux jambes ou deux chapeaux, comme on dit parfois, c'est-à-dire la littérature persane et la linguistique générale, qui ont quand même des rapports entre elles. Et à propos de la linguistique générale, bien que ce ne soit pas tout à fait mon domaine, je dois avouer que vos publications me plaisent beaucoup parce que vous faites de la belle linguistique générale. Par belle linguistique générale, j'entends par là la linguistique que je comprends. Ensuite, il y a une chose que l'on oublie toujours dans ce genre de cérémonie. C'est la troisième jambe d'une vie, d'une carrière. C'est que vous avez beaucoup d'étudiants, de chercheurs, de professeurs actuellement qui vous doivent beaucoup et qui vous sont très reconnaissants de ce que vous leur avez apporté. Nous n'aurons certainement pas le temps de vous poser toutes les questions relatives à vos publications. Je me vois obligé, naturellement, comme toujours dans ce genre de questionnaire, quelle que soit la carrière que l'on a faite, de vous demander comment vous êtes arrivé à l'iranologie, comment vous êtes arrivé au persan, et je vous ferai grâce de la sempiternelle question, comme à la télévision, et si c'était à refaire. Non. Comment êtes-vous arrivé à l'iranologie? Vous êtes entré à l'École normale en 1940. Est-ce que vous aviez déjà un contact avec l'Iran, intellectuel, je veux dire?
Je voudrais d'abord dire quelques mots, remercier mon ami, ancien élève et éminent directeur de cette bibliothèque, créateur en quelque sorte de cette bibliothèque, ainsi que l'aimable introduction de Pierre Lecoq, qui est aussi un vieil ami. Vous me demandez, vous me posez des questions sur ma carrière et comment j'y suis venu. Eh bien, je suis linguiste. Je suis linguiste et je crois que quand on est linguiste, on l'est par vocation, on ne l'est pas par hasard. J'avais donc, une manie un peu bizarre, une tournure d'esprit. La plupart, tout le monde parle, beaucoup de gens aiment parler, chacun s'efforce de parler le mieux possible, mais peu s'intéresse à ce qui se passe quand on parle, en quoi consiste cette activité de langage. Eh bien, les linguistes s'y intéressent, c'est une minorité un peu bizarre, disais-je. Je suis donc linguiste et j'ai voulu arriver à la fin des études classiques, à la fin de mes études secondaires qui étaient classiques, me livrer et commencer une carrière de linguiste. Mais quand on est linguiste, il faut s'intéresser à des langues, en tout cas au moins à une langue, ça peut être sa langue maternelle, mais ça peut être autre chose, et j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de m'adonner à quelques langues exotiques, et je n'étais pas, au départ, je n'avais pas de raison de m'intéresser particulièrement à l'Iran. Je me suis cherché une langue méthodiquement. C'est-à-dire que, étant à l'époque à l'école normale, Je suis allé voir des professeurs de diverses langues, de chinois, de cambodgien, si je me rappelle bien, d'arabe, de berbère, de persan aussi. J'ai été accueilli diversement par ces professeurs. Certains m'ont découragé. Le professeur de chinois, je ne sais plus qui c'était, m'a dit « Quel âge avez-vous ?» C'est trop tard. C'est trop tard. J'avais 20 ans passé, c'était trop tard pour me mettre au chinois.
Il a bien
très
fait.
Bien, n'en parlons pas de chinois. Le professeur d'arabe était probablement mal disposé le jour où il m'a dit que je voulais faire en arabe. Bon, très bien. C'était pas intéressant, paraît-il, ce jour-là pour lui. Alors, j'ai failli faire du berbère. Le professeur de berbère m'avait accueilli avec amabilité et m'encourageait. J'ai suivi ses cours pendant quelques temps. Et je dois dire qu'à l'époque, le doyen de la faculté des lettres à la Sorbonne était Joseph Vandriès, le vieux, il était encore là, je crois que c'était à la fin de sa carrière, et il m'avait dit « faites des langues africaines ». Je suis donc allé voir, tenez-vous bien, à l'école des langues orientales, le professeur de langues africaines, car il y avait un professeur de langues africaines, rien que ça. C'était un ancien administrateur des colonies, qui m'a dit « les langues africaines ». C'était pendant la guerre. « Qu'est-ce que vous voulez faire des langues africaines ? L'Empire français, c'est fini maintenant. Aucun avenir. » Il était lucide, comme vous voyez. Alors, toujours est-il que je suivis effectivement des langues, quelques cours de langues africaines. Je me rappelle avoir suivi des cours à l'école pratique des hautes études. Il y avait une vieille demoiselle qui enseignait à l'époque les langues africaines, enfin, certaines langues africaines, et je me suis trouvé une fois aux côtés d'un autre auditeur qui était lui-même professeur dans un lycée de la région parisienne et qui était tout noir. Il s'appelait Léopold Sédar Senghor. Nous bavardions en sortant de l'école des hautes études sur le boulevard Saint-Michel. Bon, donc j'ai pas fait de langues africaines et j'ai été en revanche accueilli par Henri Massé, qui était professeur à l'école des langues orientales et qui m'a accueilli très aimablement. C'était un homme extrêmement courtois. Et il m'a un peu introduit au persan, ça m'a plu, il m'a dit « tiens, cette langue me plaît, elle sonne bien ». Et puis c'est une langue indo-européenne, ça me rappelle quelque chose, c'est un domaine que je connais vaguement par mes études. Le son même de la langue me plaisait. Je me suis dit « très bien, faisons du persan, on va bien voir ». Et c'est comme ça que j'y suis venu, tout simplement. En cherchant une langue, j'ai trouvé celle-là, je dois vous dire que je n'en regrette pas.
Mais alors, vous avez fait votre thèse de doctorat sur la langue des plus anciens monuments de la
France. Alors, bon, ensuite...
Comment êtes-vous arrivé à...
Après la guerre, j'ai fait la connaissance d'Émile Benveniste, naturellement, qui était le grand linguiste iranisant. J'ai suivi ses cours aussi. Et, j'ai donc commencé une thèse sur le persan. J'aimerais tout de même vous dire un petit mot, si je puis dire, sur les choses qui m'ont intéressé, ce que j'ai fait, quelle a été mon activité dans ce domaine du persan et d'autres langues iraniennes. Les anciens statuts de l'école des langues orientales, à l'époque où les professeurs étaient... Les personnes qu'on pouvait trouver et qui savaient les langues et qui n'étaient généralement pas des professeurs d'université, mais d'anciens fonctionnaires ou voyageurs, et on leur demandait, selon les statuts, de faire une grammaire et un dictionnaire des langues qu'ils étudiaient, qu'ils enseignaient. Je dois dire, ça n'était pas mon projet, mais j'ai fait une grammaire et j'ai fait un dictionnaire persan. Bon, et puis d'autres études sur le persan. En fait, mes travaux ont porté d'une part sur le persan contemporain, la grammaire, le dictionnaire, etc., et les élèves et les élèves de mes élèves ont désiré que cette grand-mère connaisse une nouvelle édition il y a quelques années, c'était il y a 7-8 ans, et j'en suis très honoré. Le dictionnaire, je crois qu'il rend service, c'est le seul dictionnaire persan français utilisable. Il n'a donc pas de mérite à être apprécié, puisqu'il est seul. Il rend service, tant mieux. Il a des fautes, paraît-il, on m'en a signalé pas mal. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, comme dans tous les dictionnaires. Bon, et puis, bon, il y a eu cette thèse dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis l'autre domaine, cette thèse a porté sur l'autre aspect, si je puis dire, de la langue persane, qui est les origines de cette langue persane, où j'ai eu, j'ai fait ce travail de thèse qui m'a été indiqué par Émile Benveniste, et qui a été un rassemblement, c'était surtout de la philologie, un rassemblement de données sur des textes édités ou pas édités, mais mal connus, peu connu et en tout cas pas exploité à ce point de vue-là. Et puis par la suite sont arrivées des sources nouvelles, c'est-à-dire qui n'étaient pas connues précédemment, sont des textes judéo-persans découverts, des découvertes qui m'ont permis de comprendre quelque chose à la façon dont s'était formée cette langue à partir de parler divers selon les régions, d'après des sources nouvelles. Et le troisième domaine, si je puis dire, auquel je me suis intéressé en ce qui concerne cette époque ancienne du persan, disons en gros il y a 1000 ans, c'est la versification. C'est une idée bizarre, c'est encore une bizarrerie de linguiste. Je m'intéressais à la versification. Et j'ai cherché à voir dans quelle mesure la versification persane classique peut être considérée, peut-être d'une certaine manière, l'héritière de la versification de l'iranien pré-islamique, dans la mesure où on la connaît.
Y compris dans le Vestal.
Bon, je ne développe pas cette affaire qui est assez délicate, mais assez passionnante aussi.
Oui.
Ai-je répondu à votre question?
Oui, certainement. Mais comment s'est passé vos recherches pour l'élaboration de votre thèse? Vous avez beaucoup voyagé?
Pour la thèse?
Vous avez...
Non, pas tellement. J'ai séjourné en Iran, naturellement.
Oui, voilà.
Il y avait pas mal de documents sur place, soit des éditions qui n'étaient pas connues ici, naturellement, des manuscrits. Mais il y avait des manuscrits également ici, pays européens. Et il était facile d'obtenir des microfilms.
Oui naturellement. Et vous arrivez en Iran en 48, c'est ça, oui. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire, naturellement, à propos de votre séjour et du travail que vous avez fait là-bas. Il y en a un qui me touche particulièrement, c'est la dialectologie. Chose que j'aime beaucoup, d'autant plus que, si je peux me permettre de parler un petit peu de moi-même, les séjours que j'ai faits dans les petits villages pour étudier les dialectes font partie des épisodes les plus agréables et les plus heureux de ma vie. Comment se sont passées vos enquêtes? Êtes-vous allé sur place ou bien avez-vous trouvé des informations?
J'ai fait quelques enquêtes aussi. Lorsque j'étais en Iran, j'ai trouvé, une fois que j'étais en relation avec le directeur de l'Institut Pasteur, qui était un médecin français, et qui s'en allait faire des expéditions dans le pays avec son équipe pour chasser le rat. Pourquoi chasser le rat? Parce qu'ils s'intéressaient à la peste qui existait dans certaines régions, de la peste endémique dont le germe était transporté par les rats. Alors, ils payaient les paysans pour leur apporter des rats vivants ou morts qui pouvaient analyser. Et il m'a une fois emmené dans une de ces expéditions, et pendant qu'ils chassaient le rat, j'ai chassé le dialecte auprès des habitants du village. Dans ces cas-là, généralement, mais vous en avez l'expérience vous-même, puisque vous êtes l'auteur d'un joli livre sur le Sivendi, et j'ai le meilleur informateur, c'est un instituteur du village. L'instituteur qui sait le dialecte, qui est du pays, et qui s'y intéresse, et qui comprend de quoi il s'agit.
Oui, moi aussi j'ai eu des instituteurs, si je peux dire. Mais certains des instituteurs m'informaient admirablement bien et d'autres pas du tout, parce que j'ai eu des expériences avec des gens qui étaient complètement illettrés. Je crois que c'était à Bionnet. J'entre en contact avec, c'était un agriculteur, je pense. Et ne voit-il pas, j'avais passé déjà quelques jours avec les instituteurs d'autres personnes, il était complètement illettré. Et en deux coups de cuir à peau, il m'a expliqué, avec les mots à sa disposition, qu'il y avait un féminin et un masculin dans son dialecte. Donc il était complètement illettré. Il n'était pas du tout un instituteur. Et quel genre d'informateur avez-vous eu pour les...
Non, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, c'est que l'instituteur demande à un paysan ou un illettré, justement, de venir raconter une histoire, un conte, une femme, par exemple. Alors, il fallait surmonter sa timidité, etc., convaincre de venir, etc. Mais l'instituteur était bien placé. Naturellement, si je n'avais pas eu l'aide de l'instituteur, je n'y serais jamais arrivé. Mais l'instituteur s'arrangeait, arrivait à convaincre une femme ou un homme qui venait raconter une histoire, qui raconte l'histoire. Alors, on enregistre l'histoire, et ensuite, on la décortique avec l'instituteur.
Oui, absolument.
Qui comprend de quoi il s'agit. Alors, quelquefois, on le surprend aussi, parce que en analysant tel ou tel texte, on entrevoit la grammaire, et on lui dit, mais alors, telle chose, ça se dit pas comme ça. On extrapole. Et il dit, mais oui, comment tu le sais?
Oui, je connais ça.
Vous avez eu cette expérience?
C'est
amusant de faire de la dialectologie. Alors, je l'ai fait, d'une part, sur des formes locales de persan, en particulier sur le persan du Sistan, qui est une région un peu à l'écart, et qui a gardé, ou tout au moins qui avait gardé, quand je suis allé, mais ça fait maintenant 50 ans, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je suppose qu'il est probable que ces formes locales de persan s'estompent petit à petit sous l'influence de la radio, la télé, etc., et des voyages. Mais à l'époque, donc dans les années 60, où je me suis trouvé au Sistan par deux fois, c'était un persan très particulier, très
différent,
dans son vocabulaire et dans sa phonétique, très différent du persan très intéressant. Il y a encore des matériaux que je n'ai pas tout exploité, j'espère qu'ils seront
un jour
exploités, car il est probable qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, ça n'existe guère.
C'est précieux. En dehors des dialectes, qu'avez-vous fait en Iran?
Attendez, j'ai parlé des formes locales de persan. J'ai fait aussi une enquête sur une forme de kurde qui n'a fait l'objet d'aucun... De Laki, le kurde Laki, au sud du Kurdistan, qui est un dialecte assez particulier et qui n'a été étudié par personne.
En dehors
de mon petit article, je crois qu'il n'y a rien sur la question.
Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la dialectologie.
Et puis, une étude sur le Talechim. Alors, le Talechim, c'est différent parce qu'il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur cet ensemble de parler qui se situe aux confins de la frontière nord-ouest de l'Iran.
C'est ça. Vous n'avez pas eu l'intention de continuer la dialectologie? C'est de la linguistique.
Sur le terrain pour faire de la dialectologie.
Je vous repose la question, pourquoi n'êtes-vous pas resté sur le terrain?
J'ai été attiré par d'autres choses, j'ai fait ce que j'ai pu publier.
Quelle orientation avez-vous prise alors après les dialectes?
Eh bien, je viens de dire un mot tout à l'heure de l'étude philologique et linguistique de textes anciens. C'est aussi de la dialectologie.
Ah oui.
Je crois que le dernier article que j'ai publié il y a l'année dernière, dans Studia Iranica, c'est la dialectologie du persan préclassique d'après les textes judéo-persans, un tableau général. C'est l'étude de ces documents en persan, écrits par des juifs en écriture hébraïque, ce qui est très intéressant parce que cette écriture note des choses que l'écriture arabe ne produit pas. Ça m'a pas mal occupé, je crois, être de ceux qui ont contribué à éclairer d'une lumière nouvelle la façon dont s'est constituée une langue littéraire, ce que c'est que la langue persane telle qu'elle s'est formée au début et comment elle s'est formée au début. Elle est originaire au début du nord-est de l'Iran.
C'est ça.
Finalement. C'est de la région où on voit naître la littérature, au Khorasan et en Transoxiane.
Oui, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, après votre thèse, vous enseignez aux langues orientales.
Alors, j'ai enseigné aux langues entre 1900... Après la retraite de Massé en 1958, je m'y suis trouvé donc pour... à ce moment-là, j'ai été nommé professeur, et... En 1900, on m'a demandé plusieurs fois de m'occuper d'étudiants iraniens qui venaient faire des thèses à la Sorbonne. À la Sorbonne, c'est-à-dire à l'époque, c'était dans les années 60, il n'y avait pas de professeur ni de persan, ni d'études iraniennes à la faculté des lettres. Et c'était les arabisans qui s'occupaient de ces étudiants persans et qui en étaient bien embarrassés. Et ils ont souhaité la création d'un poste de professeur de persan et d'études iraniennes. Ils l'ont obtenu. Je me trouvais professeur à l'école des langues orientales, ce qui est devenu par la suite l'INALCO. Le seul candidat possible pour occuper ce poste, c'était moi. Que faire ? Je me trouvais très bien où j'étais, très bien à l'école des langues orientales, je ne me plaignais pas, mais ce poste existant, je ne pouvais pas faire autrement que de m'y présenter, et miracle, j'ai été élu.
Oui, alors avec vos cours à la Sorbonne, c'est une autre aventure qui commence naturellement, et il y a surtout la création de l'Institut d'Iranologie et la bibliothèque. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Pardon ?
Comment s'est passée cette création de l'Institut d'Iranologie ?
Oh, l'Institut, j'ai beaucoup dire. Vous savez, l'Institut, c'était essentiellement quelques crédits pour faire des... Avant la création du poste, quelques crédits pour faire quelques conférences, quelques livres. Je crois avoir raconté à plusieurs reprises comment, à l'origine, quand j'ai été visité... tout à fait au début de ma carrière, j'ai vu, au temps où Henri Massé était administrateur de l'école des langues orientales, il avait sur la cheminée de son bureau une petite pile de livres à peu près comme ça, il y avait une dizaine de volumes persans, ça a été l'origine de la bibliothèque de l'Institut d'études iraniennes,
un bon début.
Qui par la suite a grandi, et a grandi par les soins de tous les gens qui se trouvaient enseigner des choses iraniennes et qui y ont travaillé de grand cœur, sans aucun moyen pratiquement, sauf quelques crédits pour acheter des livres. C'était ça, l'Institut. Et puis, par la suite, il y a eu 68, il y a eu la partition de la Sorbonne, le poste que j'occupais a été transféré à Paris 3, à l'Université de Paris 3, et c'est là que nous avons obtenu un local pour les livres et pour les cours.
Et à propos de livres, en quoi consistent exactement les livres que vous venez de donner à la Bulac?
Vous savez, il y a un peu de personnes, naturellement. Bon, il y a les livres qui m'intéressaient, sur lesquels j'ai travaillé. ou pas, enfin, que j'ai utilisé à l'occasion, et puis beaucoup de choses qui nous étaient envoyées très généreusement par les autorités iraniennes, il y en a beaucoup. Mais là, Madame Zarei nous en parlera tout à l'heure. Mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tous les collègues, nous nous sommes tous mis à nous occuper de cette malheureuse bibliothèque qui a fini par grossir et n'être pas négligeable.
Et alors, troisième partie de votre enseignement, c'est l'école pratique des hautes études. Qu'est-ce que vous aviez l'intention à ce moment-là d'enseigner que vous ne pouviez pas enseigner à la Sorbonne? Je connais la réponse, naturellement.
Ben, je me suis intéressé aux choses qui m'intéressaient personnellement.
La linguistique.
Et il y avait des auditeurs. J'ai fait des choses diverses. J'ai essayé d'initier les étudiants selon la règle des hautes études, des étudiants ou auditeurs, de les intéresser et les introduire à d'autres documents ou d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas et que je connaissais peu, que j'apprenais à connaître en même temps. Nous avons un moment, je me rappelle une année où nous avons travaillé sur les nouveaux, l'inscription en bactrien qui a été découverte par la délégation archéologique française en Afghanistan, qui était la révélation d'une langue inconnue, une langue iranienne, donc en un certain sens relativement familière, mais différente de toutes celles qu'on connaissait jusque-là.
Et alors, vous êtes en linguistique orienté plutôt vers la typologie.
Alors, la linguistique n'a jamais cessé de m'intéresser, mais je m'étais dit, sagement, la linguistique générale, c'est compliqué.
C'est énorme.
Je comprends pas très bien ce que font les uns et les autres. Il y a différentes façons de la pratiquer. Quelle est la meilleure? Il y a différentes écoles. Laquelle faut-il suivre? J'avais tendance à suivre Émile Benveniste, qui était le grand linguiste français parmi quelques autres. Je m'étais donc dit, la linguistique générale, ça m'intéresse, je m'y mettrai, mais je ne m'y mettrai sérieusement pas avant 40 ans. J'étais suffisamment occupé par l'enseignement et les travaux de recherche sur le persan et les dialectes iraniens. Je m'étais promis de ne pas me mettre à la linguistique générale avant 40 ans. En fait, étant pris par différentes choses, je m'y suis mis à 50 ans, ce qui est tardif.
Et jamais trop tard.
Mais assez sérieusement, puisque je me suis trouvé, d'une part, animé un groupe de linguistes. Alors, cette fois, il ne s'agit plus d'iranologie, il s'agit de linguistes intéressés par la diversité des langues. Il y a plusieurs façons de faire de la linguistique. Beaucoup, la majorité des linguistes en France s'attache à la langue française. Je le déplore. En ignorant pratiquement ce que font les autres, ceux qui s'intéressent aux langues diverses. Et pas seulement aux langues européennes voisines, mais aux langues exotiques. Il y en a d'extrêmement intéressantes et très différentes de celles que nous connaissons, aussi bien en Asie centrale qu'en Amérique du Sud ou en Océanie.
Oui.
Et c'est là qu'il ce qui devient, ce qui est de nature à intéresser un vrai linguiste. Et je me suis donc trouvé amené à animer un groupe, ce qu'on appelait, je ne me rappelle plus la formule, parce que les formules ont changé au CNRS, un groupe du CNRS, un groupe d'une vingtaine de collègues qui se réunissaient, qui voulaient bien. Ils étaient attirés à ces réunions que nous avions une fois par mois, par rien d'autre que l'intérêt qu'ils y trouvaient. Et moi-même, j'y trouvais grand intérêt. C'était des recherches essentiellement sur la syntaxe de la phrase simple, tout simplement. La grammaire dans des langues diverses, de la syntaxe des relations entre le verbe et ses compléments. qui peuvent être de formes extrêmement diverses selon les langues, et c'est précisément la comparaison de ces langues diverses qui permet d'entrevoir autre chose que la pure et simple
description. Vous avez abordé un très grand nombre.
Alors nous avons eu comme ça, pendant une dizaine d'années, ce groupe qui s'appelait RIVALC, qui est un sigle, c'est-à-dire Recherche Interlinguistique sur les variations les variations d'actance et leur corrélat. Bon, ce groupe, c'est à la suite de ce travail collectif que j'ai publié un livre qui s'appelle L'actance, c'est-à-dire syntaxe. Bien. C'est de la syntaxe comparative de langues diverses qui a été publiée en 1994 et que j'ai fait traduire en anglais, qui a donc été traduit en anglais, mais qui n'a eu en anglais aucun succès. Parce que les Américains qui maintenant donnent le ton travaillent autrement.
Je voulais y faire allusion tout à l'heure. Parce que c'est écrit dans une langue simple et compréhensible.
Ben oui, voilà. J'ai rencontré un de mes confrères à l'Académie m'a dit il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit « Je vous lis ». C'était pas ce livre qu'il lisait, je ne sais pas quoi, un de mes livres récents. Il me dit « Je vous lis ». Et je comprends tout. C'est suspect. C'est suspect.
Je parle seul à plaisanter. C'est le cas d'ailleurs de toutes vos publications, même quand on ne connaît
Alors,
pas...
Alors, en linguistique générale, oui, ben, j'ai continué. Il y a eu ce groupe qui a été une formation du CNRS, qui a fonctionné pendant 10 ans, et qui publiait sous forme de fascicules dactylographiés, et qui a publié une petite dizaine de volumes de 200 pages, que nous avons diffusé largement auprès de collègues que nous connaissions en France et à l'étranger. Et puis, je me suis trouvé aussi engagé, d'autre part, dans un projet européen dénommé Eurotype. C'était un projet de typologie des langues européennes subventionné par les institutions européennes. Un projet assez vaste, puisqu'il engageait une centaine de chercheurs, principalement européens, de différents pays. Je me suis trouvé chargé pendant un temps du groupe qui s'occupait des questions justement d'actance, c'est-à-dire de la syntaxe de la phrase simple, et qui a publié finalement en 1998 un gros volume en français. Par exception, j'ai pu obtenir, grâce à la bienveillance du directeur, qui était un collègue allemand, j'ai pu obtenir que ce volume soit publié en français. Je dois dire que les collègues qui écrivent en anglais ne le citent jamais. Mais c'est une chose banale et courante.
Oui.
C'est ainsi que les choses se passent aujourd'hui en linguistique
là,
générale.
vous ne m'apprenez rien sur ce plan-là. Revenons un peu à Émile Benveniste, que vous avez bien connu. Quelle influence a-t-il eu sur vous, mais qu'est-ce que vous en avez retenu? Lui aussi s'est occupé de philologie, pas spécialement de persan, mais de grammaire comparée, grammaire historique, etc. Et il a fait de la linguistique générale aussi.
La grammaire comparée, je n'ai pas de compétences.
Non, mais je veux dire...
Vous en avez plus
Il a fait de la philologie.
Il a travaillé sur le vieux perse.
Disons de la philologie.
Beaucoup plus que je n'ai fait. J'ai été influencé surtout par Émile Benveniste, parmi les Français, et au-delà de Benveniste, en remontant plus haut, je suis personnellement convaincu que la linguistique telle que se pratiquait dans le cadre du structuralisme européen, il y a 50 ans, disons, était mieux fondée, donc en un sens... supérieure à la linguistique telle qu'elle se pratique aujourd'hui sous l'influence des linguistes américains. Les Américains sont extrêmement nombreux, ils font d'excellentes descriptions et la documentation qui a été réunie sur les langues diverses cru énormément. Il n'y a rien de commun entre les descriptions de langue dont on disposait autour de 1960 et maintenant. Il y en a beaucoup plus et ce sont des gens qui travaillent bien et qui font de bonnes descriptions. Mais du point de vue théorique, je pense que le structuralisme européen qui était inspiré par la pensée, je dis bien, géniale, de Ferdinand Saussure, valait mieux que les principes, s'il y en a, suivis par les linguistes d'aujourd'hui.
Vous êtes certainement, au cours de vos recherches, tombé sur Greenberg, par exemple.
Pardon ?
Greenberg.
Greenberg, oui, bien sûr. Greenberg était un homme qui avait un talent extraordinaire pour sentir des parentés entre des langues. Mais c'est
qui a un peu exagéré.
Conclusions sont...
Oh oui. Alors,
je
terminerai parce que malheureusement, il faut bien s'arrêter. Sinon, j'en connais plus d'un qui resterait bien jusqu'à minuit et même au-delà. En terminant sur quelqu'un que vous avez connu, je crois, dans les heures sombres, malheureusement, de la Deuxième Guerre mondiale, Gaffari.
Ah, Falor Gaffari, c'était un ami. Ouais. C'était un ami, je crois que je l'ai rencontré avant même... non, pas avant. Si, avant de m'être engagé dans les études iraniennes.
Lorsque
je me trouvais... Non, c'était en 1940 probablement, où...
Il est entré dans la résistance.
Mes souvenirs sont confus, à moins que ce soit un peu plus tard. C'est possible que je me sois trouvé au temps où j'étais dans le maquis. Oui. C'est plutôt à l'époque où je me trouvais dans le maquis, donc probablement en 1943. M'étant trouvé à Grenoble, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, d'un Iranien qui se trouvait là. Et si je me suis approché de lui, c'est probablement parce que j'étais déjà...
Vous sentiez déjà l'odeur
des études de persan.
Du persan.
Donc je corrige ce que je disais tout à l'heure.
Mais il faisait ses études à Grenoble à cette époque-là.
Ça devait être en 1943. J'ai connu, je me rappelle, rencontré Place Grenette. Au cœur de Grenoble, un Iranien qui m'a paru sympathique et intelligent, et que j'ai revu par la suite bien des fois, et que nous avons perdu il y a quelques années.
Qui avait beaucoup d'amitié pour vous aussi, d'ailleurs. Oui. Bon, eh bien, voilà. Il faudra bien s'arrêter, mille fois,
hélas. Oui.
Merci mille fois, en tout cas, de nous avoir entretenu de votre carrière, de vos projets, etc.
Il y aurait bien des choses à dire.
Oui. On pourrait demander une prolongation.
Absolument.
Je suis émerveillé de cette nombreuse assistance.
Ah oui, mais c'est la preuve que vous avez fait des petits, qui ont eux-mêmes fait des petits, et encore des petits.
Voilà,
bien que certains soient grands.
Alors, je pense maintenant, à moins que quelqu'un ne souhaite intervenir pour un témoignage, que nous allons passer, si ça ne vous ennuie pas, à la deuxième partie de ce programme, et demander à Farzaneh Zarehi de venir présenter la collection de livres que M. Lazare nous a donnée pour la Bulac. Et je rappelle encore une fois que M. Lazare a toujours eu à cœur de faire profiter les autres de son savoir et, en l'occurrence, de sa bibliothèque.
Vous êtes trop gentil. Alors, on quitte les lieux ?
Bon, je ne sais pas. Tant qu'on ne nous chasse pas, on reste. Bon, il faut y faire de la place, sans doute, je ne sais pas.
Ces deux dames, on va les laisser.
Oui, hein, il me semble aussi. Oui.
Je vais projeter des images.
Oui, alors il vaut mieux.
Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir accordé le privilège de faire cette présentation. Elle portera sur le don que M. Lazare a fait d'une partie de sa bibliothèque personnelle à la bibliothèque de l'Institut d'études iraniennes en 2010. Depuis, la bibliothèque de l'Institut a déménagé à la Bulac en 2011 et constitue, avec le fonds persan de la BULO, un ensemble qu'on appelle dans notre jargon le domaine persan. Je reviendrai là-dessus ultérieurement. Pour parler de ce don, je pense qu'il serait intéressant de situer brièvement ce fonds dans l'historique de la bibliothèque de l'IUI. Et puisque c'est M. Lazare lui-même qui en parle le mieux, je reprends ses paroles dans un article consacré à ce sujet. Nous sommes en 1951. Je cite M. Lazare, « Nous avions en effet commencé à constituer une bibliothèque d'iranologie. Nous étions partis de rien. En 1951, mon maître Henri Massé m'avait présenté une dizaine de volumes, dont une édition de Shahnameh, qui constituait toute la bibliothèque de l'IUI. Nos livres se trouvaient logés dans une annexe du musée Guimet, dans la lingerie de cet ancien hôtel particulier, avec de grands placards que, faute de mieux, nous trouvions très commodes pour loger les livres. Le père de Menache, Marie-Jean Mollet, André Maric et moi-même devions nous occuper de tout personnellement. Les achats à l'étranger présentaient quelques difficultés à l'époque. Nous faisions également nous-mêmes la mise en fiche, le catalogage, l'étiquetage. Le père de Menache, fort ingénieusement, mit la main sur la bibliothèque de James Darmstadter. Il recueillit également le fonds violet. Nous avons acquis aussi les bibliothèques de Mollet et de Maric. L'Université de Téhéran nous envoyait assez abondamment des exemplaires de ses publications. Notre bibliothèque s'enrichit ainsi peu à peu au prix d'un effort persévérant. Vers 1966-67, Benveniste obtint de cette institution deux pièces pour l'IEI. La bibliothèque, qui comptait déjà quelques milliers de livres, fut installée dans les sous-sols avec les bibliothèques des instituts logés à la Maison de l'Asie. C'est à ce moment-là que la Sorbonne créa une chaire de professeurs de langues et civilisations iraniennes. En 1969, lors de la partition de la Sorbonne, les enseignements de persan passèrent à l'Université de Sorbonne Nouvelle Paris 3 et je fus finalement nommé directeur de l'IUI. Mais c'est seulement en 1977 que j'ai réussi à obtenir au deuxième étage du centre Sensier des locaux pour installer la bibliothèque. Donc voilà comment la bibliothèque de l'IUI fut fondée par Gilbert Lazare. Je vais vous montrer ici les premières pages de l'inventaire, cahier d'inventaire de la bibliothèque de l'IEI. Ces pages sont remplies par Gilbert Lazare même. Et l'édition de Shahnameh dont il parlait tout à l'heure, il figure sur ces pages. Et très vite, donc, il passe aux fiches tapuscrits. Ensuite, là, c'est moi qui vous le raconte. La bibliothèque a déménagé au quatrième étage de l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, au sein de l'UFR Orient et Monde Arabe, et était gérée à ce moment-là par l'UMR Monde Iranien et Indien du CNRS. Ce déménagement en 1999 lui a permis de bénéficier d'une salle de lecture où les collections furent entièrement installées en libre accès. Donc c'est cette bibliothèque-là que la plupart d'entre vous ont connue et pratiquée pendant des années. Au moment de son déménagement vers la Bulac en 2011, la bibliothèque qu'on appelait maintenant James Darmstadter était composée de 24 000 documents et 400 titres de périodiques. Il faut savoir également que cette bibliothèque a, depuis sa création, bénéficié de plusieurs dons importants qui en constituent sa richesse aujourd'hui. Parmi ces dons, je vais vous citer quelques-uns. Il faut savoir que la partie ouvrage tirée à part et les périodiques de ces fonds que je vais citer rapidement concernant l'iranologie ont été traités depuis très longtemps. Les conditions favorables de conservation et de ces fonds et de consultation qui est offerte par la BULAC nous permettent maintenant de les traiter enfin, de traiter la partie archive de ces fonds, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cahiers de notes, les correspondances ou les cahiers de croquis. Par exemple, pour ce fonds André Maric, nous avons environ 15 cartons d'archives. Une étudiante en doctorat, Delphine Poinceau, travaille actuellement là-dessus pour faire l'inventaire. Elle espère obtenir un projet financé de son établissement PHE. Il y a le fonds Henri Violet. C'est un fonds très particulier, de très grande valeur. C'est essentiellement des photos. La partie Iran de ces photos a fait déjà objet d'une thèse par Marine Fromanger. Et il y a une publication en vue. Mais restent les photos sur l'Irak ou la Syrie. Et vu les conditions actuelles de ces pays, beaucoup de bâtiments qui ont été photographiés, donc nous possédons les photos, n'existent plus maintenant. Donc c'est un fonds qu'il faut pouvoir mettre en valeur un jour. Il y a aussi le fonds James Darmstetter. C'est essentiellement des ouvrages. Ils ont été déposés au départ à l'Institut Pasteur, donc ils portent le tampon de l'Institut Pasteur actuellement, mais ils ont été légués ensuite, grâce aux efforts de Gilbert Lazare, à la bibliothèque de l'IUI. Nous avons d'autres fonds, je ne vais pas les citer tous. Il y a le fonds du père de ménage, donc Samra Azarnouch, notre collègue ici présente de l'EPHE, a déjà fait l'inventaire. Nous avons le fonds Jean-Baptiste Nicolas, consul de France à Tabriz. Donc ma collègue Florence Hello et moi-même avons commencé l'inventaire. Pour vous dire, une fois ces inventaires terminés, donc inventaire d'archives, je précise bien, il faut réfléchir à la façon dont nous pouvons les mettre en valeur et les rendre disponibles pour les lecteurs. Donc c'est une réflexion à mener ensuite. Le don de M. Lazare se situe tout naturellement dans cet ensemble. C'est en 2009 que Gilbert Lazare a exprimé le souhait de faire un don d'une partie de sa bibliothèque personnelle à l'IEI. Notre proposition de réaliser un ex libris spécifique et d'établir un pré-inventaire de ce fonds dans sa disposition d'origine a été très favorablement accueillie. L'ex libris a été entièrement conçu et dessiné par nous-mêmes. Nous voulions prendre l'idée sur les miniatures persanes, pour ne pas être très loin des inspirations iraniennes de M. Lazare. Quand je l'ai montré à M. Lazare pour son approbation, il m'a dit que ce dessin représentait pour lui un jeune érudit tapotant sur son ordinateur portable. Donc, ça lui convenait quand même. Une fois les livres dans nos murs, nous avons commencé leur catalogage. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer que le traitement informatique de ce don est entièrement terminé. Les fonds sont disponibles et communicables via notre catalogue Bulac. Nous avons été plusieurs à travailler sur ce fonds, chacun selon nos spécificités linguistiques. Je vais vous citer quelques chiffres et éléments de contenu sur l'ensemble des ouvrages. Le fonds est composé d'un peu plus de 1500 ouvrages, très exactement 1557 ouvrages, plus quelques collections de périodiques, avec une répartition en trois catégories de langues, à savoir 500 documents en persan, 800 documents en langue latine, essentiellement en français, mais aussi en anglais ou en allemand, et pour finir, 250 ouvrages en russe ou en tadjik, mais essentiellement en alphabet cyrillique. En ce qui concerne la partie iranienne de ce fonds, il est constitué d'environ un tiers de dictionnaires ou d'études linguistiques, et les deux tiers restants sont essentiellement des ouvrages de littérature, surtout de poésie classique. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de poète classique iranien, connu ou moins connu, dont M. Lazare ne possède un bon exemplaire dans sa bibliothèque. Ce fonds de littérature persane est composé d'ouvrages édités dans les années 30-40, 1930, et il y a peu d'acquisitions postérieures à la révolution iranienne. Nous avons notamment une collection d'environ 40 ouvrages avec une très belle reliure en cuir d'origine, ouvrages publiés en Iran dans les années 30. Il s'agit d'exemplaires de divans, d'anthologies ou de recueils de textes littéraires dans leur première édition iranienne. Pour les auteurs les moins connus, ces ouvrages n'ont souvent plus été réédités par la suite. Il s'agit là d'une collection de très grande valeur que pour une grande partie nous ne possédions pas auparavant. Il y a également quelques manuscrits, notamment un manuscrit en calligraphie persane nastalir, Majma'ul Furs ou Farhang-e Sururi, copie safavite et datée de 1657, comporte 244 feuillets. Le manuscrit porte plusieurs signatures d'acquéreurs, la dernière étant celle de M. Lazare, le 10 décembre 1950. Nous avons aussi plusieurs lithographies, toutes des dictionnaires persans, avec reliure d'origine du milieu du siècle dernier, notamment le Farhang-e Jahangiri que vous voyez de 1844. Nous avons un des premiers dictionnaires français-persans publiés à Téhéran. Ça s'appelle « Khor de Farhang ». Il y a un exemplaire aussi en deux volumes de « Qur'an et Quds », une très belle reproduction de la première traduction du Coran en persan. C'est une édition numérotée. Elle est très belle. Ma photo, ça ne rend pas très bien. Je ne l'ai pas très bien pris. Voilà pour la partie iranienne. Pour les ouvrages en langue latine, essentiellement en français, en anglais ou en allemand. Nous avons notamment une traduction de Leili et Majnoun par Antoine Léonard Chézy en deux volumes, édition rare de 1805. Également une traduction de Golestan de Saadi par Semolet, édité, dédiée au roi, qui date de 1828. Ce fonds en langue latine est plutôt ciblé sur l'Iran ancien. Il comporte notamment un certain nombre d'ouvrages édités à Bombay sur le zoroastrisme ou des traductions de l'Avesta, des ouvrages qui viennent compléter les collections existantes. Cette partie du fonds montre bien l'intérêt de Gilbert Lazare pour l'étude de la langue persane et des langues et dialectes iraniennes à partir des éditions de textes, des bonnes traductions et des dictionnaires. En ce qui concerne le fond, la partie russe du fond, ou tadjik, environ 300 ouvrages, cette partie du fond contient de nombreux ouvrages publiés en russe, en tadjik, dans l'ex-Union soviétique par des chercheurs soviétiques et locaux. Il concerne principalement les questions linguistiques, la description et l'histoire des langues, mais aussi la littérature et la poésie. Ces ouvrages ont souvent été publiés dans les années 1950 ou 60 au Tadjikistan ou par exemple en Arménie et sont difficiles à trouver en France. Là, je vous montre une photo d'une traduction de Roudaki. Cet ouvrage est publié à Estalinobod, donc actuelle capitale de Tashkent, de Chambé, en 1958. Donc, l'ouvrage est en tadjik, mais écriture cyrillique. Il y a aussi quelques ouvrages précieux qui datent des années 1920, comme par exemple les dictionnaires ossètes russe-allemand en trois volumes par Vesvolet Miller. Beaucoup de ces ouvrages concernent les langues iraniennes rares, telles que le Shournani, le Yaghnubi et d'autres langues de Pamir, les langues kurdes, Ormeri et bien d'autres langues. S'y trouvent également les travaux de chercheurs soviétiques, beaucoup originaires des républiques d'Asie centrale, sur les parlers locaux et leurs caractéristiques. Par exemple, les études sur le dialecte de Téhéran ou le parler des Tadjiks de Bokhara, par Karimova, par exemple, publié à Moscou en 1959. Le fonds contient bien évidemment de nombreux dictionnaires lexiques, des manuels de langue, etc. Ces collections cyrilliques montrent que Gilbert Lazare a bien été un pionnier dans ces domaines et beaucoup des livres qu'il a collectés et étudiés sont aujourd'hui extrêmement rares. En conclusion, nous pouvons affirmer que ce fonds est non seulement le témoignage précieux d'une recherche dynamique et vivante, mais sa valeur bibliophilique est aussi non négligeable. Elle réside non seulement dans le contenu même du fonds, mais aussi dans le fait que les livres contiennent souvent des annotations de la main de Gilbert Lazare ou renferment des fiches où des feuillets volants glissaient entre les pages avec des commentaires et notes de M. Lazare. Nous avons plus de 3 classeurs de notes et de feuillets qui avaient été glissés entre les livres. Il y a également la présence de nombreuses dédicaces et signatures faites par les spécialistes et collègues iraniens, russes, tadjiks, arméniens, qui ont souvent offert ces ouvrages en témoignage de leur admiration et de leur amitié à M. Lazare. Ici, je vais vous montrer quelques-uns de ces dédicaces de la main de quelques-uns des noms les plus illustres de l'iranologie, des noms très parlants pour les Iraniens ou pour les iranologues. Voici à votre gauche donc un ouvrage dédié par Shafi Katkani à Machad en 63, celui de droite par Guneshvili à Tbilissi en 67. C'est un recueil des textes persans qu'il a publié à Tbilissi. À gauche, vous avez un dédicace de Dabir Siori qui est offert à M. Lazare en hommage à la soirée organisée en souvenir de Malekoshaharo Bahor à Paris. À droite de Zabiola Safo, dont nous avons ces anthologies diverses et variées ici à la bibliothèque, très très consultées. Ce roman a été dédicacé à M. Lazare par Farzaneh, c'est pas moi, c'est un patronyme. Peut-être que l'histoire de ce roman a eu lieu le soir où nous avons mangé ensemble avec Sadr Hedayat à Téhéran. Pour les personnes qui connaissent Sadr Hedayat, ça doit être très émouvant. Donc l'ouvrage était numéroté. À gauche, un ouvrage de poésie de Nader Naderpour qui offre son ouvrage à M. Lazare en hommage à ses services précieux rendus à la langue persane. Donc Paris, 1983. À droite, un roman de Bozol Galavi offert à M. Lazare, Cheshm Hayash, Tes yeux, ou Ses yeux, Ses yeux. C'est un roman, un monument de romans persans iraniens, donc très très connu. À droite, Saïd Nafissi, Téhéran, 63, qui offre l'ouvrage à M. Lazare en hommage à souvenirs agréables passés avec son cher collègue. À droite, Mohamed et Moïne, en guise de dommage des années de collaboration avec M. Lazare. 58, Paris. Celui-là est par M. Ilaj Afshar, à mon ami savant Gilbert Lazare, en souvenir de 60 ans d'amitié. Et puis celui-là par Mirzoyev, à Istolnabot toujours, à l'occasion de l'anniversaire du poète iranien Roudaki, les 1000 ans d'anniversaire de Roudaki, donc une cérémonie qui avait été organisée. Voici celui de Parviz Khanlari, recueil de poésie, et à droite de Manouchel Murtazavi, qui est fait à Paris, novembre 59. Je vous ai montré quelques-uns de ces dédicaces. Comme je vous l'ai précisé au départ, le fonds Lazare est entièrement catalogué. Au passage, je souhaite remercier mon collègue Marien Attar, ce soir présent avec nous à la régie, qui a patiemment traité, étiqueté, rangé ses ouvrages en rayon quand ils arrivaient au compte-gouttes sur son bureau. Très patiemment, vraiment. Maintenant, situons en deux mots ce fonds dans l'ensemble que représente le domaine persan à la Bulac aujourd'hui. Domaine persan, ce qu'on appelle domaine persan, compte en tout 43 000 ouvrages et pas loin de 500 revues issues de la réunion des collections provenant de la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, la BIOLO, et la Bibliothèque James Darmstadter, IOI, dont le fonds est en dépôt ici à la Bulac. La partie du fonds qui provient de la BIOLO a été constituée dès la création de la chaire de persan en 1796 à l'École des langues orientales, ouvert 1720 à Louis-le-Grand. Donc beaucoup de manuels de langue, des traductions de textes classiques ainsi que des récits de voyage. Le fonds connaît un développement considérable sous l'impulsion des iranisants de renom alors titulaire de la chaire persane, comme Louis Mathieu Langlès ou Antoine Léonard de Chézy, dont nous avons vu tout à l'heure sa traduction de Saadi, de Lélio Majnun, pardon, ou Charles-Henri Auguste Schaeffer. Les collections de la Biolo vont connaître un véritable essor après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette partie du fonds, il y a un aspect patrimonial unique, vu la date de la création de la chaire, avec un certain nombre de manuscrits et de lithographies notamment. Aujourd'hui, ces deux fonds réunis à la Bulac se complètent finalement très bien, chaque fonds ayant été créé pour une mission particulière. Depuis l'ouverture de la Bulac, encore trois minutes. Depuis l'ouverture de la Bulac en 2011, les collections en libre accès, niveau recherche essentiellement. Depuis l'ouverture de la Bulac en 2011, les collections en libre accès niveau recherche, essentiellement niveau recherche, il y en a un peu niveau études aussi, constituent environ 20% de l'ensemble des ouvrages, c'est-à-dire 8000 ouvrages, et les collections en magasin communicables sur demande constituent le reste, à savoir plus de 35 000 ouvrages. En termes budgétaires, nous avons la chance de bénéficier d'une situation relativement confortable, ce qui nous permet un accroissement continu d'environ 600 ouvrages par an, dont une moitié en langue latine et l'autre en persan. Votre serviteur ici présente est à la disposition de la Bulac par l'équipe monde iranien et indien comme chargée de collection pour le domaine persan. Et ma collègue Fahimeh Rouhbani, qui n'est pas là ce soir malheureusement, travaille à temps partiel pour travailler la partie ancienne qui n'a pas été encore informatisée. Les quelques 5000 ouvrages, donc les fiches Péristole que vous voyez en salle de lecture. Par l'historique de ces fonds et les conditions dont elles bénéficient actuellement, il n'est pas exagéré de dire qu'avec le très bon don de M. Lazare, ce sont des collections d'iranologie uniques en Europe et peut-être dans le monde, et aussi l'un des fonds le plus consulté à la Bulac. Merci pour votre attention. Maintenant, laissons la place à la poésie, des vers qui vont être récités par Justine Landeux et Merad Memaran Kachani. De quelle collection vous parlez ? De l'ensemble des collections présentes à la Bulac ou de collection de M. Lazare ? Des dons de M. Lazare ?
De l'ensemble de la collection qui vient d'être complétée.
Il ne manque rien. Il ne manque rien. Non, il y a des. Effectivement, ces collections, je n'exagère pas, en iranologie sont exceptionnelles. Mais effectivement. Par exemple, il y a une partie des ouvrages qui ont été publiés par le diaspora iranien à l'étranger en langue originale en persan que nous n'avons pas développé vu les difficultés que nous avons pour leurs achats ou nous avons peut-être pas suivi les études iraniennes comme il faut. Là maintenant, la traductologie est très à la mode. Nous avions comme politique documentaire de ne pas acheter vraiment de traduction. Donc, on achetait toujours en langue originale. Maintenant, on y travaille. Donc, c'est dans ces domaines-là. En iranologie en soi, ce sont des collections vraiment... Enfin, on ne couvre pas tout, mais selon notre politique documentaire, la place que nous avons, le budget que nous avons, nous faisons des choix. Qu'est-ce qui est assuré ? Ah, bien sûr, ça. Oui, 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 c'est un service à part entière, oui, oui.
Bien, eh bien, bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Lazare. Quel plaisir d'être là pour vous ce soir. C'est un... Quel plaisir d'être là pour vous ce soir. C'est un très grand plaisir. Et je remercie Farzaneh Zarehi de m'avoir invité, de nous avoir invité à faire cette lecture pour terminer cette soirée. C'est aussi un très grand honneur. Et je remercie également Paulette Samuelian, qui dirige l'équipe Monde iranien et indien, de m'avoir permis d'être venue me piocher de Vienne pour être parmi vous ce soir. Alors ça va être un grand plaisir de lire avec Mehrad ce soir, en deux langues, un choix, une sélection de poésie, donc c'était annoncé de poésie persane classique. En fait, ce sera essentiellement de deux poètes, dans la version persane originale et dans la traduction française de Gilbert Lazare, parce qu'en plus d'être l'éminent linguiste et le grand iranologue iranisant que nous connaissons et que nous célébrons, Gilbert Lazare est aussi un très grand traducteur de poésie. Et là, nous avons dû faire une sélection. Nous avions choisi des textes parmi les derniers publiés, des poésies d'une part du poète Hafez de Shiraz, donc sans doute le plus grand poète lyrique iranien, né à Shiraz vers 1315, mort aux alentours de 1390, sans doute le plus lu, le plus connu des Iraniens, mais aussi à l'étranger. Et on terminera par un quatrain de Omar Khayyam, alors ce grand mathématicien, astronome, poète du quatrain persan, forme plus légère, mais également extrêmement célèbre, y compris à l'étranger. Alors ces deux poètes ont été traduits dans des traductions publiées par Monsieur Lazare, chez Gallimard, dans la collection Connaissance de l'Orient, Omar Khayyam, 101 quatrains de libre pensée, paru en 2002, et Hafez de Shiraz, 101 ghazal amoureux, traduit du persan, présenté, annoté par Gilbert Lazare, Paris 2010. Nous pensions donc pouvoir choisir quelques textes, là, parmi les volumes publiés, qui sont absolument magnifiques. Contre toute attente et en toute exclusivité, Monsieur Lazare lui-même nous a proposé des textes inédits ou largement remaniés. Donc ce que nous allons pouvoir lire ce soir devant vous, ce sont les deux premiers textes dans la version traduite par Gilbert Lazare sont des nouvelles traductions inédites et les autres ont été remaniés par ses soins. Donc c'est avec un plaisir particulier que nous allons les lire ce soir. Je laisse la parole à Mehrad pour la version persane donc des premiers poèmes de Hafez.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم چو در دست است رودی خوش بگو مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم سبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم سخندانی و خوشخوانی نمی وردند در شیراز بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
Allons, jonchons le sol de rose et que le vin coule dans les veines. Pardon. Allons, jonchons le sol de rose, que le vin coule dans les vers. Pourfendons la voûte du ciel et reconstruisons l'univers. Si le malheur lance ses hordes, avide du sang des amants, viens et chansons, courons les maîtres à la raison incontinent. Au vin de pourpre dans la coupe, d'eau de rose faisons l'offrande, au zéphyr odorant mêlons du sucre la vapeur friande. De ton beau luth, ô ménestrel, fais que s'élève un chant de fête, fais-nous danser à bras levés, battant du pied, branlant la tête. Soyons poussière, emporte-nous vite à notre reine, ô zéphyr, et peut-être aurons-nous la chance de la faveur de son sourire. L'un n'invoque que la raison, l'autre ne dit que bagatelle. Lequel est sage ? Allez porter devant le juge ses querelles. Si tu rêves du paradis, viens avec nous à la taverne, car les jarres s'y sont remplies au bassin du jardin d'Éden. Quand beau parler et doux chanter à Shiraz ne sont en honneur, tant pis, Hafez. Adieu, Shiraz. En route et allons voir ailleurs.
حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است. همه آن است و وگر نی دل و جان این همه نیست. منت سدره و تو باز پی سایه مکش که چه خوش بنگری ای سر بروان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل افتد به کنار ورنه با سعی عمل باغ جنان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست. بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. دردمندی من سوخته زار نزار ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست. زاهدی من مشو از بازی غیرت زنهار که ره صومعه تا دیر مغان این همه نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست.
L'univers est un atelier dont le produit est peu de chose. Apporte à boire, les affaires de ce monde sont peu de chose. Du cœur et de l'âme l'honneur est de bien aimer ce qu'on aime. Tout est là, car chagrins et joies, qu'est-ce sinon bien peu de chose. L'ombre de l'arbre de l'Éden ne vaut pas que l'on s'humilie. Tu verras bien, mon doux cyprès, qu'elle est au vrai très peu de choses. La fortune, nous le savons, est ce qui vient sans que l'on peine. Le paradis à grands efforts, en fin de compte est peu de chose. Pendant les quelques pauvres jours que nous passons à cette étape, prenons notre temps, car le temps, après tout, n'est que peu de chose. Nous sommes ici dans l'attente, sur le rivage du néant, verse et chanson, de coupe à lèvres, la distance est si peu de chose. À bout de force, consumé, me faudrait-il dire mon mal ? Vous me voyez ? En commentaire, besoin n'est que peu de chose. Ne te crois pas, pieuse ascète, gardée contre les jeux du zèle. Du couvent au temple des mages, le chemin est bien peu de chose. Le nom de Hafez, il est vrai, est honoré bel et bien, mais chez les libertins, le renom, mauvais ou bon, est peu de chose.
ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم. از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن آن روح امین به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. حافظ این خرقه پشمین بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم.
Nous n'attendons à cette porte ni rang ni haute dignité. Contre les coups du sort, ici, cherchant refuge, nous voici. Pèlerins sur la voie d'amour, de la frontière du néant, après une très longue route, au cap de l'être, nous voici. Nous avons vu ce vallon vert et désertant le paradis, dans l'espérance de cueillir la mandragore, nous voici. Maître naguère d'un trésor, ayant pour trésorier l'archange, voyez, à la porte du roi, c'est en mendiant que nous voici. Ô vaisseau de bénédiction, ancre de longanimité, au flot de générosité, noyé de péché, nous voici. Fais pleuvoir sur nous ta bonté, nuage de miséricorde, déshonoré, couvert de honte, au lieu des comptes, nous voici. Quitte, Hafez, l'habit de laine, dépouille et jette la défroque, courant après la caravane au feu des soupirs, nous voici. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را فقان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله، نکو گفتی، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. غزل گفتی و دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را.
Daigne la Turque de Shiraz saisir mon cœur, je donnerai. Pour à son front la mouche indienne, tout Samarcande, tout Bokhara. Verse, enfant, ce vin d'outre-temps, le paradis ne t'offrira, ni fontaine de Roknabad, ni nos jardins du Mossala. Hardi, tzigagne, trop habile, assommé l'émoi dans la ville. Avez-vous fait de ma patience à suffisance la razia? Mais l'idole a droit d'ignorer notre imparfaite adoration. Vain au visage non pareil, l'éclat des phares est faux appât. Parlez-moi de chant et de vin et laissons l'énigme du monde que n'a nulle philosophie résolue ni résoudra. Les charmes de l'enfant Joseph devait tirer, je le savais, plus accompli de jour en jour, les chastes retraits Zuleïkha. Tes mots cruels, sois-en béni, je les fais miens, et c'est bien dit. Réponse amère à lèvres douces, assurément ne m'essiez pas. Mais entends la leçon, mon âme, plus que la vie est chère de la sagesse de l'ancien. Au jeune cœur que le ciel choie. Poème écrit, perle percée, viens d'où Hafez, chante et que puisse ton chant défiler le collier de l'or des astres Soraya. Va ezan
kin jelve dar mihrab o minbar mikonand, چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر می کنند. یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سربر می کنند. ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان، می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند. خانه خالی کن دلا تا منزل سلطان شود، کین هوسناکان دل و جان جای لشکر می کنند. وقت صبح از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند.
Ces prêcheurs du haut de la chair, comme ils sermonnent brillamment, mais ils font bien différemment au fond de leurs appartements. Que daignent les doctes me dire, car je n'y vois goutte, comment ces professeurs de pénitence s'en gardent si parfaitement. Ils ne croient guère, dirait-on, à l'annonce du jugement. ils versent au compte du juge leurs fraudes et déportements. Je prends, moi, pour maître l'ancien des derviches itinérants, qui trouve honte aux opulents, au dénuement contentement. Rassois, Seigneur, sur leur beau dé ces parvenus, qui fièrement exhibent leurs grands équipages et hautains établissements. Dans notre taverne, l'amour, que s'y joigne, ange, votre chant, infuse dans l'argile humaine de merveilleux enivrements. Quand par la beauté sans déclin, foudroyés tombent les amants, on voit naître de l'outre-monde de toujours neufs surgissements. Courent en leur cloître chez les mages, c'est là, mendiant de ce couvent, qu'on verse au cœur une liqueur qui le fait riche infiniment. Vide, ô mon âme, la maison, faisant du roi le parlement, quand les avides l'abandonnent au soudard de l'emportement. Cette clameur surgit à l'aube de l'horizon du sentiment. Dirait-on pas que les archanges de Hafez prennent les accents?
می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است.
C'est le dernier poème que nous allons lire, c'est un quatrain donc de Omar Khayyam.
Ah oui, pardon, j'ai oublié de mentionner qu'on change de style.
On change de style. Boire frais et vivre à l'aise, sans souci, telle est ma loi. Ni dévotion, ni blasphème, liberté, telle est ma foi. Quel présent veux-tu de moi, pour gage ai-je demandé à la vie? Mon épousé, mon seul gage, c'est ta joie. Merci.